Que chacun parle au Seigneur, se présente au Seigneur. Nous sommes venus ce soir pour recevoir de lui. Nous ne sommes pas venus recevoir d'un homme. Que chacun exprime ses désirs au Seigneur. Le Seigneur nous dit de demander. Disposons nos cœurs, ouvrons nos cœurs et demandons au Seigneur de nous visiter ce soir. Que nous ne rentrons pas sans un acquis, que nous rentrons bénis. Éternel notre Dieu, notre Père et notre Roi, merci de ce que tu nous as rassemblés par ta grâce ce soir pour être enseigné de toi, de ta parole. Au moment, Seigneur, où nous allons commencer, nous prions, notre Dieu, que tu te saisisses de chacun de nous, que tu nous disposes, que ton Saint-Esprit nous nourrisse, ô notre Dieu, de ta parole, que tu règnes dans cette salle, que tout ce qui ne glorifie pas ta sainteté soit évacué de cette salle, ô notre Dieu, que tes hommes puissants défaille dans ce temple, dans cette station. Que toute autre voix que la tienne se taise, ô notre Dieu. Viens, Seigneur, et conduis-nous. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous. Le thème de ce soir, bien-aimé, c'est le disciple et la révélation divine. Nous avons, dans les cellules d'études bibliques, certainement fait les études bibliques sur ce thème. Et la séance d'enseignement qui suit, c'est-à-dire celle-ci, vient donc pour mettre le point sur les i. Le disciple et la révélation divine. En guise d'introduction, dans notre société actuelle, pas seulement dans notre société de tout temps, les hommes ont senti le besoin de Dieu dans leur cœur. La parole de Dieu nous dit qu'il y a un vide dans le cœur de l'homme. Et ce vide, l'homme a besoin de Dieu. Personne d'autre ne peut satisfaire ce besoin en dehors de Dieu. Mais il s'avère que ce besoin de Dieu est comblé généralement par une mauvaise révélation de Dieu. Et ceci est dû à plusieurs causes. Il est question ce soir de répondre à toutes les attentes, toutes les interrogations que les uns et les autres se font sur la révélation de Dieu. Nous aurons donc à répondre aux questions qui suivent. Qu'est-ce que la révélation? Quel est l'objet de la révélation? Quel est le but de la révélation? Quels sont les différents types de révélations? Quelles sont les caractéristiques de la révélation? Comment Dieu se révèle-t-il de nos jours? Et puis, nous passerons à la prière. Qu'est-ce que la révélation? C'est le premier point. Je voudrais d'emblée dire que la révélation vient de plusieurs mots. La notion de révélation est exprimée en hébreu par le terme gala, comme gala avec H à la fin, et par six termes grecs. Pour les termes grecs, le premier c'est apocalypsis, qui signifie ôter le voile. Le deuxième terme grec, c'est phanero, ça c'est un verbe qui signifie manifester, rendre clair. Le troisième terme grec, c'est épiphania, qui signifie épiphanie, manifestation. Le quatrième terme grec, c'est un verbe qui signifie montrer. Quand Dieu se montre. Le cinquième terme signifie expliquer, déplier. Donc Dieu, quand on dit la connaissance de Dieu, on déplie. Comme c'était compact, on déplie pour que les gens aient connaissance de ça ou expliquer. Et le sixième terme grec signifie instruire, avertir. Bon, de tous ces termes, nous pouvons nous résumer en disant la révélation, révéler, c'est lever le voile pour faire connaître ce qui était caché, inconnu ou secret. Donc, les choses secrètes, les choses cachées, les choses inconnues, quand on les amène en plein jour, c'est la révélation. La révélation est donc l'action par laquelle Dieu se fait connaître aux hommes dans sa nature, son caractère, ses œuvres, qu'il s'agit des œuvres passées, des œuvres présentes ou même des œuvres à venir. Il y a des passages bibliques qui nous permettent d'appuyer ces définitions. Il y a le psaume 147, verset 19. Il y a Daniel 2, Daniel, particulièrement Daniel 2, les versets 22 et verset 28, qui nous disent que révéler, c'est exposer ce qui était profond, ce qui était caché. Maintenant, passons à l'objet et au but de la révélation. L'objet de la révélation, c'est la personne de Dieu et le plan de Dieu à l'égard de l'humanité. Voilà les deux grands points. La révélation porte sur la personne de Dieu et sur les desseins de Dieu pour l'humanité. Et nous devons d'emblée nous rappeler, Dieu est un être spirituel en dehors du monde. Dieu est esprit. Ce qui veut dire que les êtres physiques qui sont finis et qui ne sont pas saints, qui sont pécheurs, ne peuvent pas voir Dieu. Le but de la révélation. Les hommes ne peuvent pas d'eux-mêmes arriver à la vérité en ce qui concerne Dieu. D'ailleurs, nous le constatons quand nous regardons les religions, les philosophies humaines. Ce sont autant d'efforts que les hommes se donnent pour pouvoir découvrir qui est Dieu. Et nous savons que ni les religions ni les philosophies ne peuvent aboutir à cette connaissance de Dieu. Dieu lui-même a pris l'initiative de se révéler aux hommes. Dans le but, il y a quatre aspects pour ce but. Que les hommes le connaissent, quand je parle des hommes, grand H, c'est-à-dire les hommes et les femmes le connaissent, ça c'est le premier point, l'aime, deuxième point, le serve, troisième point, et qu'il soit sauvé. Voilà les quatre aspects du but de la révélation. Connaître Dieu, aimer Dieu, servir Dieu et être sauvé par lui. Ceci étant, nous savons maintenant ce que c'est que la révélation, nous savons quel est l'objet de la révélation, quel est le but de la révélation. Nous pouvons maintenant découvrir, nous l'avons déjà fait dans les études bibliques, mais cette fois, nous allons aborder les différents types de révélations sur un plan général, théologique. Ce ne sera plus comment on va aller au-delà de ce qu'on a fait dans les cellules d'études bibliques. Comment Dieu se fait-il connaître aux hommes? Nous allons dire qu'il y a trois types de révélations avec des sous-types. Le premier type de révélation, c'est la révélation générale de Dieu. Il y a une révélation spéciale de Dieu et il y a une révélation parfaite de Dieu. Dans chacun des trois types, il y a des sous-types. Pour la révélation générale de Dieu, ça a deux aspects. Dieu s'est révélé à tous les êtres humains de deux façons. À travers la nature, c'est-à-dire la création, la première façon. La deuxième façon, à travers la conscience. Tous les êtres humains que Dieu a créés ont une conscience. Et c'est cette conscience qui leur permet de discerner le mal du bien et même d'avoir accès à la connaissance de Dieu. La conscience de l'homme lui permet de discerner le bien du mal. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ, ou bien vous recevez Jésus, l'Esprit de Jésus vient habiter en vous. L'Esprit de Jésus vient habiter dans votre esprit. Parce que votre conscience discerne la présence de Dieu. Les personnes qui sont conscientes de leurs devoirs moraux, qui connaissent la différence entre le bien et le mal, qui ont un sentiment de culpabilité lorsqu'ils agissent mal, prouvent par là que la loi morale de Dieu est inscrite dans leur cœur. Même si on ne leur a jamais parlé de Dieu. Cette loi morale de Dieu est résumée dans les 10 commandements. C'est ce que nous lisons dans Romains chapitre 2, 14 à 15. Voici ce que dit Romains 2, 14 à 15. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Voilà ce que dit Romains 2, versets 14 et 15, que nous avons expliqué. Maintenant, le deuxième aspect de cette révélation générale, c'est la nature, la révélation naturelle. Par la création, Dieu a montré sa gloire en accordant à l'homme cette révélation universelle et continue. Je vais lire ce que en dit le psaume 19. On va lire ensemble ce que dit le psaume 19. Et vous allez découvrir, nous allons pas, peut-être pas découvrir, nous allons revoir ce que cette parole nous dit, les versets 2 à 6. Je lis pour nous. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Je m'arrête là, parce que ça continue. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Elle prend les éléments de la nature pour nous montrer que c'est le langage de Dieu. Dieu donne à l'homme une idée de sa puissance et de sa gloire à travers la contemplation de la création entière. Quand nous regardons les cours d'eau, la végétation, les animaux dans leur diversité, les êtres humains dans leur diversité, les planètes, les astres, si nous allons dans un laboratoire d'astronomie pour regarder l'univers, pour voir la Terre comme une petite boule, nous allons davantage comprendre que Dieu qui a créé ça, ça va nous donner une idée de celui qui a créé ce que nous voyons. Paul affirme que même les non-croyants connaissent la vérité au sujet de Dieu. C'est pour ça que dès le verset 21 de Romains 1, il dit « Ayant connu Dieu », les non-croyants, Paul affirme que les non-croyants ont connu Dieu à travers la nature, puisqu'ils vivent dans cette nature. Mais ils retiennent la vérité captive, injustement d'ailleurs. Et il précise les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, quand on regarde ce que Dieu a fait, on y voit sa divinité, nous dit Paul. On y voit sa puissance, on y voit ses perfections invisibles. Et il conclut, ils sont donc inexcusables, au verset 20, Romains 1, verset 20. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, au verset 21. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré la créature au lieu du Créateur, ça c'est le verset 25. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, ça c'est le verset 28. Et en plus, ils désobéissent aux commandements moraux de Dieu. Nous le lisons au verset 32. Et ils approuvent même ceux qui désobéissent. Ils sont donc inexcusables parce qu'ils ont rejeté la vérité. Voilà ce que nous dit le chapitre 1 de Romains. Au fait, que peut-on connaître de Dieu à travers la nature? Nous avons dit qu'à travers ses ouvrages, on voit la puissance de Dieu, on voit la divinité de Dieu, on voit ses perfections invisibles. La nature révèle le Créateur en tant qu'être intelligent. Et ce que la Bible appelle très souvent la sagesse de Dieu. sa toute puissance. On voit tout ça dans la nature. Mais il y a, nous devons quand même remarquer que la révélation de la nature et même celle de la conscience ne peuvent pas nous amener au salut, qui est un autre aspect de la révélation de Dieu. La première remarque, donc, il y a quelques remarques, il y a trois remarques. Si chacun conformait sa vie à cette connaissance de Dieu, je suis toujours dans la logique de Romains chapitre 1, en lui rendant grâce, je veux dire ceux à qui Paul parle dans Romains 1. S'ils avaient conformé leur vie, s'ils avaient rendu grâce à Dieu, s'ils avaient aimé Dieu, s'ils avaient obéi tous les jours, alors on ne leur reprocherait rien. Cependant, nous constatons que personne ne peut aimer Dieu ou son prochain comme lui-même, puisque dans ce passage, il est, au verset 20, il est écrit que l'homme préfère adorer et servir la créature parce qu'il a en lui un désir de manipulation. Nous voulons être souverains, alors que Dieu veut que nous soyons dépendants de lui. Le problème est là. Le problème, c'est celui du péché. Le problème n'est pas dans la révélation. La cause de toute chose, c'est l'homme, le péché de l'homme. Et dans ce péché de l'homme, je souligne bien le désir de souveraineté. Dieu veut que nous soyons dépendants de lui. Mais nous voulons faire les choses par nous-mêmes. Alors qu'il n'y a aucun aspect, même pas un petit aspect de notre vie, où nous n'avons pas besoin de Dieu. Et une fois, je disais aux gens que lorsque tu vas même lorsque tu vas aux toilettes, tu as besoin de Dieu pour sortir vivant des toilettes. Il suffit que ton organisme te crée des difficultés. Tu verras la nécessité de chercher le secours de Dieu étant aux toilettes. Peut-être ne vous est jamais arrivé de prier Dieu que libère-moi. Cependant, la révélation générale que nous venons de voir, c'est-à-dire naturelle, plus celle de la conscience, elle n'est pas suffisante pour nous faire connaître les autres aspects de la révélation, c'est-à-dire le caractère de Dieu et le salut de l'humanité. Elle nous donne des aspects de la connaissance de Dieu. Mais elle ne nous enseigne pas sur les caractères. La nature ne nous enseigne pas sur les caractères de Dieu. La conscience ne nous enseigne pas sur les caractères de Dieu. Et non plus, elle ne procure le salut. Il faut donc la compléter. Il faut qu'elle soit complétée par une autre révélation. Et cette révélation est consigné dans la parole de Dieu. C'est pour cela que le deuxième type de révélation, c'est la révélation spéciale à travers la parole de Dieu. Nous avons dit qu'il y a trois types: la révélation générale, la révélation spéciale à travers la parole de Dieu et la révélation parfaite en Jésus-Christ. Nous allons maintenant donc voir cette révélation spéciale à travers la parole de Dieu. Dieu se fait connaître à l'homme de deux façons. Dieu lui parle directement. Ça, c'est la première façon. Que les autres, certains ont appelé la révélation orale. C'est normal. Et la deuxième façon, c'est la révélation écrite. Les saintes écritures. Mais en réalité, qu'est-ce que les gens ont écrit? Les gens ont écrit ce qu'ils ont reçu oralement de Dieu. C'est pour ça qu'on dit la révélation spéciale de la parole de Dieu, en mettant l'oral et l'écrit ensemble. La révélation orale. Dieu se révèle à l'homme en lui parlant directement, de manière audible. À Moïse dans le buisson, à Adam, à Abraham, à plusieurs autres. Dieu se révèle aussi dans l'alliance avec son peuple. C'est le Dieu de l'alliance. Les alliances à l'époque étaient d'usage dans cette partie du monde-là, au Moyen-Orient. Je ne dis pas que les alliances ne sont pas d'usage aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les traités. Et c'est pour cela, avec Abraham, avec David, avec Moïse, ainsi de suite, avec Noé, avec... Il y a plusieurs dieux se révèlent comme le Dieu de l'alliance. Ensuite, lorsque Dieu agissait avec son peuple Israël, il le faisait comme... Bon, les gens ont appelé ça la théocratie. Mais en utilisant le langage courant, on dirait qu'il a agi comme un souverain. C'était le roi d'Israël. Pas le roi humain, non. Avant qu'on ne commence à choisir des rois pour Israël, c'est Dieu qui était leur roi. Il était leur Dieu, mais il était leur roi. Et il avait mis en place des règles pour régir ses relations avec ses sujets qui étaient le peuple d'Israël. Et généralement, il utilisait des porte-paroles. À l'exemple de Moïse. Moïse est un porte-parole. Tous les prophètes qui vont suivre après sont des porte-paroles de Dieu. Et ces règles ont été consignées par écrit. Et quand on parle donc de la révélation écrite, il s'agit de toutes ces choses qui ont été mises par écrit. En plus des tablettes, des deux tablettes que Moïse a reçues déjà écrites, parlées et écrites sur le Sinaï. Et cette révélation écrite est donc entièrement conforme à la volonté de Dieu. Quelques remarques sur cette révélation spéciale à travers la parole de Dieu. La révélation à travers la parole de Dieu est progressive, étape par étape, à travers toute la Bible. À la fois en ce qui concerne la personne de Dieu, en ce qui concerne le plan de salut pour l'humanité, vous savez, comme moi, que le plan du salut pour l'humanité est progressif. Pour être parfait avec la venue du Seigneur. En faisant connaître aux hommes son nom, Dieu se révélait à eux dans son essence. Je suis. Voilà comment il se révèle à Moïse. je suis. Va leur dire que je suis a dit que. Donc, les autres porte-paroles, c'est-à-dire les prophètes, viendront chacun à son tour compléter cette révélation jusqu'à ce que le révélateur par excellence, à savoir Jésus-Christ, vienne. Et nous aussi, chacun, chaque être humain peut avoir accès à cette révélation écrite, accès à Dieu en lisant, en méditant la parole de Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. La parole de Dieu est esprit et vie. D'ailleurs, pour être transformé, je ne parle pas seulement de la bonne nouvelle du salut. Pour être transformé, quand on a même déjà reçu Christ, c'est à travers la mise en pratique de ce que nous recevons dans les lectures et méditations et enseignements et autres. Ce que l'apôtre Paul appelle le dépôt de la parole de Dieu. C'est dans le cœur, ce n'est pas dans la tête. Nous avons les problèmes, beaucoup ont des problèmes, parce que leur dépôt se trouve dans leur tête. Alors que le dépôt dont il est question, c'est dans le cœur. Le vrai problème dans le milieu chrétien, c'est que beaucoup ont gardé le dépôt dans leur tête. Alors que le cœur, où ça devait être, si ça ne descend pas dans le cœur, ça ne peut pas être mis en pratique. Nous passons donc à la troisième révélation, la révélation parfaite. Jésus-Christ est la révélation parfaite de Dieu. Pour cet aspect, Hébreux 1, les versets 1 et 2 nous disent, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Par sa parole, par sa vie, par son œuvre, Jésus a parfaitement révélé Dieu, notre Père, son Père. Il y a beaucoup de passages qui peuvent nous aider à soit cela, que ce soit 1 Jean 5, verset 20, que ce soit Ésaïe 61, les versets 1 à 4, que ce soit Luc 4, versets 18 à 21. Il y a beaucoup d'autres passages. Que disent les apôtres de cette révélation parfaite? Les apôtres disent que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. 2 Corinthiens 4, verset 4, Colossiens 1, 15. Et Jean parle du Logos, la parole qui exprime la pensée de Dieu, en qui toute la plénitude de la divinité habite. Ça, c'est Colossiens 1, 19. D'autre part, les guérisons que Jésus a opérées, les délivrances. Bon, d'autres appellent ça exorcisme. Moi, j'appelle ça délivrance. Les termes peuvent varier. Ce n'est pas un problème. Tout cela révèle les intentions du salut de Dieu. Dieu veut sauver les gens. Et cela culmine par la création de l'Église. Et c'est pour ça qu'une fois, j'ai dit ici que l'église, en réalité, pour Dieu, est une sorte d'hôpital. D'ailleurs, même si on ne le dit pas, les gens viennent malades à l'église, mais ils, dans leur cœur, dans le profond de leur cœur, chacun désire rentrer étant guéri. Vrai ou faux? Voilà. Nous voyons donc qu'avec la création de l'église, les juifs et les non-juifs forment un seul peuple racheté par Jésus-Christ. L'évangile également fait connaître ce plan de salut de Dieu pour les hommes. Ce que la révélation naturelle, générale, n'a pas pu. Voyons maintenant les caractéristiques de cette révélation. Donc nous sommes à la quatrième partie, les caractéristiques de la révélation. La révélation a deux caractéristiques. Elle est subjective et elle est objective. Pourquoi subjective? La révélation peut être subjective parce qu'elle s'adresse à l'esprit, directement à l'esprit de l'homme. Et nous savons, si tu demandes à ton voisin que ton esprit se trouve où, il ne peut pas te situer. Il ne peut pas te situer. Mais il est conscient qu'il a lui-même est un esprit. Et il est âme, corps et esprit. Dieu s'adresse donc à l'esprit de l'homme, mais toujours en conformité à l'écriture. Pourquoi? Pour lui montrer trois choses. La signification des actes divins. Luc 10, verset 21, Matthieu 11, verset 23. Deuxièmement, pour lui montrer la nature de la personne de Jésus-Christ. Et nous l'avons vu dans la notion de révélation qui a un terme grec qui signifie montrer. Révéler signifie montrer. Donc on n'utilise pas les mots au hasard. La troisième chose, pour lui montrer la volonté divine pour nous, Philippiens 3:15, c'est-à-dire la pensée au sujet des prophéties accordées autrefois ou les prophéties concernant l'Église. 1 Pierre 1, verset 12, 1 Corinthiens 14, verset 30. Ça, c'est l'aspect subjectif. Dieu parle directement à l'esprit de l'homme. Le deuxième aspect, c'est l'aspect objectif, qui s'adresse à nos sens. La vue, l'audition, etc. Pourquoi il le fait? Pour nous faire connaître la vérité de l'évangile. Ça, c'est la première raison. Pour nous faire connaître la personne de Jésus-Christ. La deuxième raison. Pour nous faire connaître les pensées cachées dans le cœur. Pour les pensées cachées dans le cœur, c'est Luc 2, 35. La quatrième raison. Pour nous faire connaître la venue de Jésus en gloire. Cinquième raison, pour nous faire connaître la gloire qui attend le croyant. Ça fait partie de ce que nous croyons. Nous ne croyons pas gratuitement. Nous savons qu'il y a la gloire qui nous attend, nous qui croyons. Pour nous faire connaître la valeur du service. Ça a une autre raison, 1 Corinthiens 3, 13, pour nous faire connaître ce que Dieu réserve, les jugements. la colère de Dieu contre le péché et contre ceux qui refusent de revenir à Dieu, de se repentir et revenir à Dieu. Le jugement les attend. Le contenu donc de la révélation se trouve, comme nous le lirons dans 2 Pierre 3, verset 2, dans les prédications, dans les prédictions des saints prophètes, dans les commandements du Seigneur transmis par les apôtres, là c'est ce que nous dit 2 Pierre 3, verset 2, les écrits sacrés peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est 2 Timothée 3, 15. Maintenant, de nos jours, comment Dieu se révèle-t-il de nos jours? Nous avons vu la révélation générale, la révélation spéciale à travers la parole de Dieu, la révélation parfaite à travers le Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue à se faire connaître aux hommes et aux femmes à travers la révélation générale, c'est-à-dire la nature et la conscience, à travers la révélation spéciale, c'est-à-dire la parole de Dieu, qu'elle soit orale ou écrite, à travers les prédications des serviteurs et des servantes de Dieu, à travers la lecture et la méditation de la parole de Dieu, à travers les visions, les songes, les prophéties. Dieu est le même, il n'a pas changé. C'est pas parce que nous sommes en connaissance de la révélation parfaite que nous devons mettre dans les placards les autres aspects de la révélation. Non. C'est un ensemble. Tout en un. Mais, comme nous avons dit, ajouté, parce que c'est le vécu des chrétiens, qu'il s'agit des songes, des visions, des prophéties, c'est le vécu des chrétiens. Et la parole de Dieu l'a annoncé. Vos jeunes auront des, vos vieillards auront des, ainsi de suite. Mais nous avons besoin de discernement pour savoir, lorsque nous sommes devant une révélation, d'où vient-elle? Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de nous-mêmes? Est-ce que ça ne vient pas de l'ennemi? Même la parole qui est citée, regardons la tentation du Seigneur. L'ennemi cite la parole, non? Il cite la parole. Le fait de citer la parole ne signifie pas que ça vient de Dieu. Les intentions qui sont derrière trahissent sa source. Bien-aimés, nous devons donc demander au Seigneur le discernement quant à ce qui concerne la révélation. Donc, le disciple est la révélation divine. Le disciple est lui-même le fruit de la révélation divine. Il doit vivre en conformité avec la révélation divine. Voilà. Et nous avons fini en disant, chaque jour, il a besoin de discernement. Vous voyez, l'apprentissage de Samuel quand il était petit. Dieu lui parle, mais il ne connaissait que la voix du sacrificateur. Il ne connaissait pas Dieu. Nous sommes dans la situation de ce petit de Samuel quand il était petit. Nous avons besoin d'aller à l'école de l'écoute de Dieu pour savoir quand c'est Dieu, quand c'est nous-mêmes ou quand c'est l'ennemi. C'est sur ces mots bien-aimés que je clôture ce partage que nous venons de faire. Et je vais nous permettre de poser deux questions après lesquelles, deux ou trois questions après lesquelles nous passerons à la prière. Bonsoir. Gestion des révélations reçues. Oui, ma soeur. Bonsoir. Oui. C'est noté. Le frère Tala. Après le Père, ça, au lieu de trois, nous aurons quatre questions. Clé de lecture des sommes. Différence entre révélation et vision. Bon, répondons. Oui. Oui. L'arrêt. Quand on arrête de recevoir. Comment gérer les révélations? Bon. Elle a donné un élément. Parce que la réponse est complexe pour la gestion des révélations. Maintenant, il faut prendre révélation par révélation. Quand c'est une prophétie, oui, on regarde, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Mais il faut aussi prier. L'apôtre Paul demande même de prier pour une confirmation. Donc, c'est les révélations, ça dépend maintenant. Si c'est une vision, si c'est un songe, ainsi de suite. Lors du programme, on a dit pour les rêves, qu'il faut déjà connaître les différents types de rêves et s'assurer que on n'était pas dans de mauvaises conditions. Je prends le cas des rêves. Par exemple, est-ce que ce que j'ai reçu n'est pas la conséquence de ma gourmandise ou de ma mauvaise alimentation? Est-ce que ce que j'ai reçu n'est pas la conséquence du stress ou d'une perturbation que les événements ont amené dans ma vie? Je dois d'abord évacuer ces cas-là. Avant maintenant de prendre en considération ce que j'ai reçu. Quand c'est une vision, donc pour toute révélation, il y a une succession de critères. On les confronte à la parole de Dieu. Toute révélation, c'est vrai, comme tu l'as dit. Mais pour le cas des rêves, il y a des rêves qu'il faut mettre de côté. Ne pas même pas perdre son temps pour regarder dans, si la pensée est conforme à la parole de Dieu. Parce que si on l'a reçu, ce rêve dans certaines conditions, ça ne vaut pas la peine. Quand c'est une vision, est-ce qu'elle est conforme à la parole de Dieu? Mais on doit prier pour que le Seigneur nous donne, nous confirme. Bon, même quand c'est une prophétie, regardez un peu ce qui se passe entre Marie, Élisabeth et Joseph. Concernant les mêmes événements, regardez comment Dieu fait. Joseph est dans le secret, c'est Dieu qui lui parle. Marie est dans le secret, c'est Dieu qui lui parle. Élisabeth est dans le secret, c'est Dieu qui lui parle. Et ils ne se sont pas communiqués. Donc, pour la gestion des révélations, nous avons besoin de la parole de Dieu, du discernement, et nous devons prier. Arrêt des révélations, péché ou volonté souveraine de Dieu. Bon, ça peut ne pas toujours être le péché. Et même que il y a des gens, parce que à cause de l'amour de Dieu, Dieu les avertit quand ils sont dans le péché. Et de façon terrible, brutale. Je peux prendre mon exemple. Une fois, j'étais en train de me tromper sur un sujet. Dieu m'a révélé quelque chose. Il me dit, si tu progresses dans ce chemin, telle personne va mourir. Immédiatement, j'ai compris que j'étais dans le péché. Mais Dieu a parlé de façon que je ne puisse plus avancer d'un micron. parce qu'il y avait la vie de quelqu'un en jeu. Il m'avait bien montré les conséquences de ce que j'étais en train de faire. C'est pour dire que c'est pas que le péché peut arrêter les révélations. Non. Dieu agit comme il veut. Il peut t'avertir par les révélations, même dans, si tu es dans une situation de compromission. Par contre, nous devons savoir que si nous sommes soldats de Christ, nous avons à combattre, à prier chaque jour pour empêcher. La révélation, c'est pour notre épanouissement et notre édification. Vous connaissez bien qui a besoin que nous ne soyons pas épanouis, que nous ne soyons pas édifiés. Les forces ténébreuses là, vous croyez qu'ils sont contents que Dieu nous révèle les secrets qu'il y a dans le monde? Tu as même une maladie sur toi, tu ne sais pas. Ce sont eux qui ont mis, non? Mais le jour que Dieu te révèle qu'il y a telle chose, c'est un début de solution, non? Est-ce qu'ils seront contents? Donc, comme Daniel priait et un bonhomme avait bloqué le passage de sa prière dans la réponse dans le ciel, ce n'était pas une histoire. L'histoire du prince de Perse qui a retardé pendant 21 jours la réponse à la prière de Daniel. Ça veut dire que c'est pour nous enseigner que chaque jour nous devons prier pour que notre connexion avec le Seigneur soit fluide. Qu'elle soit fluide. Que les puissants des ténèbres ne fassent pas blocage. Qu'on ne vous trompe pas. Le diable, tous les jours on l'écrase, on fait ceci. Pourquoi le monde est comme il est? Si on l'avait écrasé, le monde serait comme il est. Posons-nous la question. Pourquoi de chaque jour il est plus virulent alors qu'on l'a écrasé, on a fait ceci? Ça veut dire qu'on a une mauvaise conception de certaines choses. C'est pas parce que tu es enfant de Dieu qu'il n'y a pas l'obstruction pour tes activités. Et c'est pour ça qu'on doit prier tous les jours. Le diable ne veut pas notre bien. Clé de lecture des psaumes à travers les noms de Dieu. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses que les gens veulent faire. J'ai parlé de la tête. Les gens veulent avoir accès aux choses de Dieu par leur tête, l'intelligence. L'intelligence naturelle, il y a deux intelligences. Il y a l'intelligence spirituelle. Et il y a l'intelligence naturelle. On ne peut pas avoir accès aux choses de Dieu par l'intelligence naturelle. Par contre, Dieu peut doter les gens de l'intelligence spirituelle par lesquelles il les instruit, il leur donne des choses qu'il ne donne pas à tout le monde. Ça, c'est clair. Donc, il ne faut pas se fier aux clés de lecture de juste fruit de l'intelligence humaine là. Et même que les clés de lecture des songes sont très limitées. Posons-nous la question. Pourquoi est-ce que il fallait que Dieu donne, que Daniel prie pour que Dieu lui donne l'explication du songe de Nebuchadnezzar? Pourquoi? Je dis bien que Daniel a prié avec ses amis pour que Dieu lui accorde l'explication du songe. S'il y avait une clé universelle pour l'interprétation des songes, bon, on n'aurait plus besoin de Dieu, non? Donc, c'est pour ça que j'ai fait attention aux clés pour interpréter les choses. Je fais très attention. Et au niveau maintenant de la différence entre révélation et vision, nous avons dit tout à l'heure que Dieu parle, Dieu se révèle aussi. Au fait, quand on a vu l'objet de la révélation, on a dit la personne de Dieu et le plan, le dessein de Dieu pour l'être humain. Il y a des choses que Dieu révèle à travers les visions, à travers différents moyens. Mais je peux dire simplement, peut-être la personne qui a posé la question ne se rappelle plus que quand on voyait l'enseignement sur les rêves, on a dit qu'on reçoit les visions pendant qu'on est en éveil. Alors que les songes, c'est quand on est endormi qu'on reçoit. On reçoit les visions pendant qu'on est en éveil. Mais maintenant, il faut discerner. On a dit, premier critère, la parole de Dieu. Il y a le discernement, mais il faut prier. Il faut prier. Je veux seulement répondre en disant, Papa Enoch, l'un est inclus, la vision est incluse dans les révélations. On a vu différents aspects de la révélation. Et on dit qu'en ces temps-ci, à cause de la prophétie de Joël et des autres, Dieu a dit qu'il va parler. Quand les songes, les rêves, les prophéties, ainsi de suite. Donc, voilà ce que je peux dire. S'il y a d'autres soucis, ce sera, vous écrivez, vous laissez chez les pasteurs pour rencontrer les bergers pour répondre. Sauf s'il y avait un éclairage, on peut prendre un éclairage sur ces questions-ci. On peut prendre un doigt et on passe, on prie pour clôturer. Et s'il n'y a pas d'autres éclairages, nous allons prier. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Bien-aimé, peut-être debout. Disons merci à notre Dieu pour ce partage que nous avons eu cet après-midi. Pendant que nous disons merci, demandons au Seigneur de communiquer ce que nous avons reçu à ceux qui n'ont pas eu la grâce d'être ici ce soir. Ceux qui ont eu des empêchements, il y a des deuils, il y a des contraintes. Prions pour ceux-là, afin que Dieu lui-même les édifie. Disons merci à Dieu, parce qu'il a toujours eu le désir de se faire connaître à l'homme qu'il a créé à son image. Disons-lui notre reconnaissance. Ne soyons pas comme les Romains à qui Paul parlait, qui ont bien connu Dieu à travers la création, mais qui ne lui ont pas rendu grâce. demandons pardon à Dieu pour toutes les fois où nous avons mal géré les révélations reçues. Toutes les fois où nous n'avons pas glorifié Dieu comme il fallait. Toutes les fois où nous avons écouté nous-mêmes en pensant que c'était Dieu. Écouté l'ennemi en pensant que c'était Dieu. Supplions le Seigneur Jésus-Christ de nous révéler davantage le Père. Nous avons dit que la révélation est continue. Supplions le Seigneur de nous garder en connexion avec lui. Que nous soyons connectés à sa volonté. Prions que le Seigneur nous accorde la grâce d'une intimité profonde avec lui dans une vie de prière et de méditation de sa parole. Qu'il nous aide à tirer profit de toutes les lectures et méditations de sa parole afin que le dépôt de sa parole dans notre cœur soit chaque jour en train d'augmenter, Demandons au Seigneur de faire de nous des vrais adorateurs avec toutes ces révélations sur Dieu, sur son plan de salut pour nous. Dieu attend des vrais adorateurs qui nous aident à l'adorer en esprit et en vérité. Et confions au Seigneur notre retour respectif dans nos maisons, qui nous garde en chemin, et qui maintienne en nous son souffle de vie.